Et oui, vous avez reconnu ce générique qui est celui de Vendredi Théâtre sur Divergence FM. Il s'agit bien sûr d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre, le retour tous les vendredis, l'actualité théâtrale passée au crible par toute l'équipe de Vendredi Théâtre. Donc je suis avec Julie Cadillac de BSC News. Bonjour Julie.
Bonjour Florent.
Je suis avec Robin. Bonjour Robin.
Bonjour tout le monde.
Nous attendons Tito et nous avons Christopher aussi qui va assister à l'émission avec Gilles à la technique. Donc vous êtes bien sur Divergence FM le 93.9 et non pas Divergence les Flots, puisque vous le savez peut-être, nous avons eu quelques petits soucis d'intempéries et d'humidité. Donc nous faisons ce direct dans l'entrée du hall de Divergence. Et on va commencer tout de suite sur des chapeaux de roue avec un superbe spectacle qui se déroule au Domaine d'eau, moi Caravage. Nous recevons Caravage aujourd'hui et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Cesare Capitani.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors ce Caravage, au départ il y a un roman oui. De Dominique Fernandez que j'ai lu il y a quelques années. Il est sorti il y a une dizaine d'années je crois.
En 2003.
Oui. En 2003, j'étais pas loin.
Il y a 9 ans, oui.
Un roman qui est assez énorme et que vous avez adapté. Alors oui. Moi je pensais que le pari allait être compliqué et en fait dans le spectacle tout le roman est là. Comment vous avez fait pour cette adaptation?
C'est de la magie. Non, mais j'ai travaillé énormément pour cette adaptation. C'est vrai qu'au départ c'est un roman qui fait à peu près 700 pages, très très riche, un roman que j'ai beaucoup aimé et que j'ai commencé à adapter en 2008 à peu près. Et donc bon, j'ai proposé plusieurs versions à Dominique Fernandez et on est arrivé à une dernière version presque un an après, et c'est la version qu'on joue maintenant. Et c'est vrai que tout le monde nous dit qu'il y a tout le roman, c'est pas vrai.
Bien sûr.
Malheureusement j'ai dû couper beaucoup de passages très très beaux. On parle pas de tous les tableaux comme on en parle dans le roman, mais bon, il fallait faire un choix et je suis content quand même que l'esprit du roman soit là.
Alors Caravage, donc on le connaît maintenant bien à Montpellier puisqu'il y a l'expo toujours au musée Fab, c'est
oui,
les derniers jours.
Oui, jusqu'au 14.
Jusqu'au 14, donc dépêchez-vous, courez voir cette expo. Oui. Donc parlez-nous un peu de Caravage. Qui était ce Caravage? Parce que c'était un sacré énergumène, j'allais dire.
Oui, alors Michelangelo Merisi, ça c'était son vrai nom, dit Caravage parce que c'était le village où il a grandi. Et à l'époque, comme pour Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, on utilisait souvent le nom du village, de la ville d'où les artistes venaient. Était un personnage assez fort déjà à l'époque parce que voilà, il a commencé à peindre assez jeune. Il a été d'abord apprenti dans des ateliers à Milan, après il est parti à Rome et là, tout jeune, il avait 18 ans, 19 ans, il a commencé à peindre d'une façon complètement différente par rapport à tous les autres. Je ne vais pas faire un cours d'histoire de l'art, mais bon, il y avait quand même une manière très maniérée de peindre à l'époque. Donc soit il y avait les gens qui suivaient l'école de Léonard de Vinci, soit Raphaël, donc les classiques, etc. Et lui, il a révolutionné la façon de peindre. Donc il a commencé à mettre du réalisme dans ses tableaux. Il utilisait des modèles. Donc il voulait que ces sujets religieux, parce que les commandes, c'était souvent des sujets religieux, il voulait que ces sujets soient quand même pris du peuple. Donc on voit des saints, des vierges, des anges avec des traits tout à fait humains et reconnaissables. D'ailleurs, le problème qu'il a eu dans sa vie, c'est qu'après, on reconnaissait dans ses tableaux la prostituée que tout le monde connaissait ou le voyou qui venait de faire quelque chose de pas très très bien. Mais il avait besoin de reproduire la réalité. Et ça, on le voit aussi dans sa façon. Donc non seulement les sujets qu'il traitait et la façon dont il les traitait, mais aussi la lumière. Donc on dit que c'est le père du clair-obscur. Ce n'est pas complètement vrai, mais c'est quelqu'un qui l'a développé d'une manière incroyable. Et la lumière dans ses tableaux devient un personnage. Parce que pour la première fois, alors que jusque-là les tableaux étaient tous très bien éclairés, avec une lumière formidable partout et tous les visages étaient bien éclairés, lui, il commence à l'utiliser d'une façon dramatique. C'est-à-dire que la lumière donne une texture aux personnages, aux objets, par rapport à la façon dont elle est employée. Donc dans ces tableaux on voit des lames de lumière, des rayons, des faisceaux qui tombent d'on ne sait pas où et qui éclairent les visages, les fruits, les corbeilles, les objets d'une façon particulière. Et c'est presque du cinéma, c'est une façon presque cinématographique de donner une importance à la lumière. Et en plus avec son cadrage souvent très très serré, il peint très très peu de paysages, son attention est concentrée sur les visages, sur la souffrance des personnages.
Sur les corps aussi.
Sur les corps.
Il y a une présence autre, extraordinaire
voilà.
des corps.
Autre élément très important, c'est la soucis. Sensualité. Jusque-là, les anges étaient quand même très asexués, mm-hmm. alors que lui met dans ses personnages une sensualité, une sexualité, un érotisme très, très, très puissant. Donc pour tout ça, on peut dire vraiment qu'il a révolutionné et complètement mis sans dessus-dessus la peinture.
Oui, parce qu'aussi, ses amants étaient présents aussi dans la toile. Donc
tout
c'est
à fait.
Ça qui est aussi...
Il était un artiste haut en couleur, on dit ça. Et dans sa vie aussi, voilà, il aimait les hommes, les femmes. Je pense qu'il aimait la beauté. Donc,
il aimait les corps.
Il aimait les corps, et on le voit dans ses tableaux. Et c'est vrai que c'était choquant à l'époque de voir ces modèles qui étaient censés représenter des anges, ou des jeunes garçons, plutôt dans la puberté, etc. Et avec une sensualité, une séduction, presque une dépravation qui était vraiment très, très troublante.
Et ce que j'ai trouvé très beau, moi, c'est que vous essayez aussi dans la scénographie de rendre... on a l'impression de voir une toile vivante. Hein. Il y a un jeu de lumière qui est très beau. Il y a un travail sur la lumière qui est magnifique.
Ouais, merci. Pour nous, c'était très important. Quand je dis « nous », je parle du metteur en scène, de moi, et aussi de Laetitia, donc la comédienne chanteuse qui est sur scène avec moi.
Laetitia Favard.
Tout à fait. Laetitia Favard, qui, avec moi et avec Stanislas... à travailler à que ce spectacle soit vraiment un peu comme un tableau de Caravage, où la lumière est un personnage à part entière. Mmh. Et c'est vrai que les gens sortent souvent du spectacle en disant « Ah, on a l'impression d'avoir vu les tableaux », ou alors mmh. « On a envie de se ruer sur Internet ou dans le musée pour voir les expos ». Et c'était un peu l'objectif de rendre dans ce spectacle l'émotion qu'on peut retrouver en regardant les tableaux.
Je crois que ça a été très bien rendu, parce que c'est vrai que votre théâtre est un théâtre qui fait beaucoup de liens. On voit quand on vit cette pièce, on voit les tableaux, et après, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on va voir les tableaux donc au musée Fab, moi j'y suis allé le lendemain, et ça apporte un éclairage qui est totalement, totalement différent sur la toile. Mmh. On comprend dans quelle situation est-ce que le peintre a peint ses toiles, oui. quel a été l'enjeu pour oui. chacune de ses toiles. Mmh. Il y en a qui dépendaient de sa propre survie.
Tout à fait.
Il en a dû en modifier quelques-unes parce qu'il avait l'inquisition derrière lui qui le poursuivait. Et même ne serait-ce que l'anecdote sur la toile avec la corbeille de fruits et le verre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors dans le spectacle, on utilise, il y a une phrase qui est presque un fil rouge dans tout le spectacle. Un des premiers tableaux importants de Caravage, c'est une corbeille de fruits. Mais là aussi, il a voulu se différencier de tous les autres peintres. Il a représenté des fruits, mais pas des fruits appétissants, mais des fruits qui sont en train de pourrir. Donc si on regarde bien, on voit les feuilles fanées, le panier qui est un peu cassé, délabré, et surtout une pomme où on voit vraiment très bien un trou. Et donc on s'imagine qu'à l'intérieur, il y a un ver qui est en train de ronger, de voyager à l'intérieur de la pomme. Et c'est vrai que ce tableau était lui aussi scandaleux pour l'époque, donc de représenter la nature, mais dans ce moment de décomposition, de mort, de fin de vie, c'était assez fort. Et ça, avec d'autres tableaux, toujours avec des fruits, qui étaient très symboliques, lui ont causé pas mal de soucis, effectivement. Donc il a dû se justifier auprès de l'Inquisition, parce que chaque fruit était symbolique de soit Jésus, soit d'autres choses. Donc c'était assez, assez compliqué.
Et sur scène, donc Laetitia, elle joue aussi Mario
oui.
qui a été un modèle qui l'a accompagné une bonne partie de sa vie.
Tout à fait. Alors Mario, c'est un...
Le garçon au lézard, c'est lui. Le garçon
oui, apparemment lézard, c'est lui. Alors, c'est étrange parce que les contemporains de Caravage disent que Mario et Michelangelo Merisi et Caravage se ressemblaient énormément. Mmh. Donc il y a des chercheurs qui disent que parfois c'est Caravage qui se peint lui-même. D'autres disent que c'est peut-être Mario. Mario était un peu plus jeune que Caravage, mais c'est vrai que c'est un personnage qui a réellement existé. Il s'appelle Mario Minniti, un peintre d'origine sicilienne qui est devenu après un caravagesque, mais ses tableaux malheureusement ne sont pas au musée Fabre. On peut le voir en Sicile. Et oui, donc il est souvent dans les peintures, et probablement c'est lui dans Garçon mordu par un lézard, et aussi Garçon représenté dans Garçon qui épluche une pomme et Jeune Bacchus malade.
Et alors, donc c'est un roman, ça n'est pas une autobiographie. Donc dans quel dans quelle mesure il y a une part de, voilà, de romancer. Par exemple, moi, je pensais à la fin. Est-ce que c'est la véritable fin de Caravage?
Non, on ne va pas dévoiler. Bon, de toute façon,
non, mais voilà, vous dévoilez, mais je veux dire, donc, voilà.
Non, c'est vrai que Fernandez, il le dit, c'est une biographie romancée. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fasciné, parce que j'avais lu d'autres textes sur Caravage, qui étaient des textes beaucoup plus historiques, des vrais documents, et oui, ils étaient intéressants, point.
Oui, voilà.
Alors que là, c'est un roman qui part du principe que c'est Caravage même qui raconte son histoire. Mm-hmm. Bon, déjà, c'est de la fiction, parce qu'il est mort, il raconte sa vie d'un point de vue particulier, c'était depuis sa mort, donc c'est un fantôme, c'est un spectre, c'est un mort qui parle. Mm-hmm. Et qui raconte justement son existence. Et ce que Fernandez a inventé, je trouve que c'est toujours plausible, parce qu'il part quand même de ses tableaux. Donc, dans ses tableaux, Caravage, il met souvent l'idée d'être la victime. Il se peint jamais en héros, mais toujours en victime, que ce soit Saint-Mathieu en train d'être tué, que ce soit la tête de Goliath, que ce soit Judith et Holoferne. C'est toujours la victime, jamais le héros. Et donc, j'ai trouvé passionnant et très théâtral aussi le fait d'accepter sa vision de la fin. Bon, on peut la dévoiler de toute façon, c'est le dernier soir ce soir, donc les gens, c'est complet. Donc,
on va vous demander par contre un petit exercice, si ça vous serait possible de nous donner un tout petit extrait.
Là, tout de suite, comme ça.
Comme ça, si c'est possible.
Ok, bon, je vais essayer. C'est vraiment le début du spectacle et qui, voilà, comme ça, ça me permet de relier à ce que vous disiez. C'est lui qui parle de sa vie. Mon corps ne l'a jamais retrouvé. Brûlé sur la plage, jeté dans la mer, oublié comme un chien. Un autre à ma place se lamenterait. Moi, je m'estime fortuné, ni tombeau, ni dalle funéraire. Pas de commémoration pour moi. Ce serait hypocrite, après avoir été persécuté de mon vivant. On ne peut pas mettre sang dessus la peinture et vouloir mourir comme le Titien à 86 ans, couvert de lauriers et riche à millions. Non, moi, de mon existence, je fais un précipice. Une course à l'abîme.
Magnifique.
Bon, merci.
Je vois que l'heure tourne et que il va falloir se quitter. Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau de premier
merci
vendredi théâtre
vous.
De la saison.
Est-ce que je peux juste annoncer qu'on va jouer à Nîmes?
J'allais vous le demander.
C'est formidable. Vous êtes formidable. Oui, alors le vendredi prochain, on sera à Cannes, vendredi et samedi. Après, on sera à Nice, mardi et mercredi prochain. Et le 19 et le 20, on sera à Nîmes, au théâtre de l'Odéon. Et après, Biarritz, Rome. On va jouer à Rome, à Saint-Louis des Français.
Et aujourd'hui, c'est donc à 15h et à 20h30, si je ne me trompe. Merci beaucoup. On va faire une
merci
petite pause musicale avec le Miserere d'Allegri.
Merci.
Thank you.
Et vous êtes sur Divergence FM le 93.9 dans l'émission Vendredi Théâtre, la première émission de la saison. Avec un second plateau, j'ai le plaisir de recevoir Julien Bouffier. Bonjour Julien.
Bonjour.
Pour nous parler d'un spectacle qui a débuté hier, un spectacle qui va durer encore quelques jours, qui s'appelle Les Témoins. Mmh. Alors il y a un spectacle, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a deux chapiteaux. Il y a aussi une déambulation, si j'ai bien compris. Comment ça s'est passé ? Mais c'est un spectacle.
C'est un spectacle et trois points de vue. Donc c'est un peu trois spectacles. En tout cas, chaque spectateur ne verra qu'un des, une des trois parties, un des trois points de vue, et donc pourrait revenir pour voir d'autres choses, puisqu'il y a, il y a plein de choses que l'un ou l'autre ne voit pas. C'est les témoins, c'est des points de vue sur le réel, en disant qu'il n'y a pas une vérité, mais que c'est toujours selon l'endroit où on se met, ou d'où l'on regarde, qu'on a un point de vue, qu'on a une opinion sur les choses. Donc là, c'était de se dire, bah, tiens, bah, on va donner au public qu'un point de vue, ou que un certain nombre de points de vue d'un côté, un certain nombre d'autres de l'autre côté, et que, a priori, tous ces faisceaux de points de vue puissent donner quelque chose.
C'est un petit peu le point de vue de la compagnie Adesso et Sempre, mm-hmm, sur l'actualité de ces deux dernières années, et en même temps en liaison avec les spectacles précédents de la compagnie.
Oui, et en même temps, ça, c'est la Serre Blanche. Ça, effectivement, c'est le...
C'est celle où j'étais.
Oui, c'est celle où tu étais. Les deux autres sont d'autres points de vue. C'est-à-dire que la Serre Noire, c'est on est parti à partir d'un personnage, pardon, qui serait un geek, qui serait quelqu'un qui passe sa journée sur des jeux vidéo, sur des ordinateurs et tout ça, et comment en partant de là, de ce point de vue là, de ce point de départ là, on arrive à s'intéresser au réel ou pas, est-ce que ce rapport au virtuel, tout ça, comment on est en relation avec le réel, d'autant plus qu'on sait que les révolutions arabes et tout ça et tout ça et tout ça, Facebook, les réseaux sociaux, mmh, ont servi donc les deux côtés de des réseaux, d'internet, de tout ça. Donc on travaille ça sur la serre noire, sur l'autre serre. Et puis il y a un troisième espace déambulatoire qui est là où on est conduit par quelqu'un du monde du travail. C'est plutôt un regard des coulisses. C'est-à-dire puisque dans le déambulatoire, on tourne autour des deux espaces principaux de représentation. Et ouais, comme si on était en coulisses. Et donc comme si on voyait le travail se faire.
Et là, dans un des plateaux, tu es intervenant. C'est toi qui dirige un peu le plateau que, mm-hmm, que j'ai vu. Mm-hmm. C'est un petit peu une première de te voir comme ça. Parce que d'habitude, tu es plutôt à la mise en scène. On ne te voit presque pas, presque jamais.
Ouais. Effectivement, bon, enfin, ça m'arrive. Bah, j'accepte de le faire maintenant quand c'est pour jouer mon rôle. En fait, mm-hmm, je ne fais que mon rôle. Mais en fait, au départ, je voulais devenir Gérard Philippe. Hein, donc, hein, bon. Au bout d'un moment, je me suis dit que c'est Jean Villard, ça serait plus intéressant peut-être que Gérard Philippe. Il a vécu plus longtemps. Mm-hmm. Mais non, je... Bah, là, ça s'est fait comme ça. En fait, ça s'est fait vraiment... Il n'y a pas eu la volonté de le faire. Mais au fur et à mesure des résidences qu'on a pu mener, puisque donc, c'est un travail assez long, hein, qui est depuis plus de deux ans, on mène ce travail-là. Et donc, on donnait à voir des petites choses dans les résidences. Et puis du coup, bah, c'est écrit... C'est écrit un personnage qui était le mien et du coup qui nécessitait ma présence.
Et en fait, moi, la question que je me posais, les témoins, c'est le titre de mm-hmm, la pièce, mais les témoins, est-ce que ce sont les spectateurs, est-ce que c'est la compagnie ou est-ce que ce sont les personnages? Ça pourrait être les trois.
Bien sûr, bien sûr. Bah, les témoins, c'est ces passeurs, c'est ces gens qui voient des choses et comment on réussit à témoigner. Bon, c'est par rapport à la question aussi, le théâtre est-il un média? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement le théâtre peut témoigner de quelque chose? C'est une allusion à ça, donc.
Mais il y a une certaine interactivité dès le départ qui est mise en place dans ce spectacle. Donc en fait, tu disais que donc on pouvait voir les trois, mais est-ce que c'est possible de voir les trois, puisque au départ, je ne vais pas le révéler, mais au départ, il y a un principe qui fait que on ne voit peut-être pas les trois.
Non, bah non. Selon qui on est. Là encore, on peut voir les trois. On est en direct.
Oui,
on est en direct. Donc, si vous venez vendredi soir, mardi soir, mercredi soir, vous pourrez voir les trois. Mais il faudra faudra venir trois fois.
Ah voilà, d'accord.
Puisqu'effectivement, au départ, le public est scindé en trois. Enfin, ça, c'est pas un mystère. C'est-à-dire que le spectacle commence quand on arrive, on nous donne un petit formulaire à remplir. Un petit questionnaire qui nous permettra à nous, après analyse, de se dire, bah tiens, ces gens, vaut mieux les mettre là.
Et ça fonctionne, les comédiens, ça fonctionne en vase clos, ou est-ce que les comédiens se déplacent d'un espace à un autre ?
Bien sûr.
Oui, ouais. Aussi, voilà.
Donc une des complexités du projet, c'était de réussir à faire ces liaisons-là. C'est-à-dire qu'on fait vraiment trois spectacles en parallèle, en simultané, et en même temps, on n'est que six au plateau, il n'y a que six acteurs qui jouent. Donc comment on réussit à faire qu'il y ait toujours un acteur d'un côté ou d'un autre ? Et en même temps, c'est pas interdit que parfois il n'y ait pas d'acteur du tout.
Ah oui. Voilà. Ouais.
Non, parce qu'il y a la partie de la Serre Noire qui est la partie la plus radicale du projet, mais qui me semble être moins passionnante. Mais c'est sûr que je pense qu'elle
déstabilise
ouais. énormément le rôle de spectateur habituel.
Et alors, donc il y a eu des échanges, des réactions suite aux premières représentations.
C'était la première hier.
C'était la première hier.
À chaud.
Oui, il y a évidemment des réactions. Et je crois que le spectacle provoque la parole, c'est-à-dire provoque le discours et l'échange. Et c'était évidemment ça le but. Et ensuite, il y a évidemment les gens qui disent « Ah, j'aurais bien aimé être dans l'autre » ou « Ah putain, les autres, j'imagine, ça va être une catastrophe parce que vraiment, ça va être vachement moins bien que nous. Enfin, » voilà, c'est toujours ce truc-là. Hein, mais c'est ça qui c'est là, travailler sur la frustration du spectateur.
Oui.
Ce spectateur qui peut s'emballer ou qui peut être un petit peu, de temps en temps... traîne sa vatte et dire c'est toujours mieux à côté. Voilà, et on rencontre ça. Mais c'est vraiment c'est sûr que c'est un spectacle qu'on peut pas voir comme un autre spectacle. Enfin, en tout cas, où le rôle du spectateur est complètement de manière sensible, de manière physique, hein, puisqu'il y en a un, donc on se balade, l'autre où on est mal assis. c'est dans notre corps, ça travaille dans le corps, quoi, ouais. Le spectacle.
Il faut prévoir des coussins, quoi.
Il faut prévoir de s'habiller chaudement.
Ah, de s'habiller chaudement.
Et voilà. Oui. Ne venez pas en bermuda et chemisette. Rentrez chez vous après le travail ou après je ne sais quoi. Mettez un blouson, quoi. Un blouson, même si on donne des couvertures pour ceux qui sont en déambulatoire. Selon les jours, il fait un petit peu frais.
Oui, oui.
Mais tu parlais de frustration tout à l'heure. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en sortant du spectacle, en me demandant mais qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans l'autre tente ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la déambulation ? Et comment les comédiens sont passés d'un plateau à l'autre ? Si tout le monde est passé d'un plateau à l'autre ? Donc, il y a une curiosité qui se fait à l'issue du spectacle quand j'ai vu les plateaux se rejoignent un peu, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vu ? Mais qu'est-ce qu'ils ont pu bien voir que je n'ai pas vu ? C'était la question que je me posais, qu'on se posait avec Gradia, avec qui j'avais été au spectacle.
Bah oui, c'est l'enjeu, c'est évidemment l'enjeu, c'est qu'est-ce qui se passe à côté, c'est-à-dire que finalement, l'intérêt de ça, c'est de se dire, ce que je vois n'est pas forcément ce que tout le monde voit, et que donc mon opinion n'est peut-être pas une certitude. Voilà.
Et il y a des clins d'œil aussi à d'autres mises en scène que tu as fait. J'ai vu les clins d'œil à Hiroshima, mon amour. Pour tous ceux qui ont vu le spectacle, on retrouve des moments dans Gradia le Rouge aussi. Et,
Costa, c'est Gradia.
Costa.
Gradia,
c'est Gradia la Rouge et Costa le Rouge.
Elle était rouge.
Elle était rouge. Ensuite, nous, on travaille sur le rapport au réel et à la fiction, c'est-à-dire au mensonge, évidemment, hein, puisque par rapport à la lucidité, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Est-ce qu'on nous raconte des mensonges ou est-ce qu'on nous raconte la vérité ? Et donc, nous, on n'arrête pas de jouer avec ça. Et puis, alors là, c'est pour le coup les très vieilles ficelles du théâtre, hein, du théâtre dans le théâtre. Et donc, on s'amuse à revenir sur des choses qui pourraient être une mémoire commune avec certains spectateurs. Et puis des choses qui sont arrivées en vrai à l'intérieur de tout ça, c'est-à-dire que les choses qui sont arrivées sur Hiroshima mon amour, qu'on a joué au moment de Fukushima, c'est vrai, c'est-à-dire que on sait même, pour vous dire toute l'histoire qu'on raconte pas dans le spectacle, c'est qu'à Fukushima, pour que après Fukushima, des dates en région parisienne, à Pontoise, par le député maire de Pontoise, ont été annulées alors que le spectacle était programmé, parce qu'il fallait plus parler du nucléaire. Voilà.
Et j'ai noté aussi...
Très fin lecteur de Duras, ce député. <même. rire>
J'ai noté aussi qu'il y avait la présence à un moment de Victor Hugo.
Et oui. Il a fallu aller chercher Totor un petit peu parce que, vous savez, quand on ne sait plus quoi faire, on toque à la porte de Totor et puis...
Il y a tout dans Totor.
Et puis il y a tout.
Il y a tout.
Il y a tout.
Et là, c'est donc, un extrait de 93.
Voilà, c'est un extrait de 93. Bah, c'est-à-dire qu'il me semblait important de revenir à la Révolution française. Par rapport à toutes ces et en particulier le printemps arabe et tout ce qu'on nous dit sur mais c'est catastrophique en fait c'est les frères musulmans, c'est Narda qui sont au pouvoir et que finalement les libertés sont en train de tomber, tout ça. C'est la poste.
On est en direct.
C'est la poste qui arrive.
Ou du studio de Divergence.
Il est très bon. Enfin, toujours est-il qu'il y a un moment, on dit oui. En fait, c'est une catastrophe. Il aurait mieux valu laisser Moubarak et Ben Ali. Moi, j'ai envie de dire, non. Il faut du temps. Il faut du temps au temps. Et donc, de revenir à la Révolution française et à notre histoire à nous permet aussi de relativiser les choses.
Voilà, on va rappeler que c'est donc au théâtre Jean Vilar. Ça a commencé hier, sinon c'est vendredi, mardi, mercredi 10 octobre et jeudi 11 octobre à 20h.
Ouais.
Et on peut y aller plusieurs fois.
On peut y aller plusieurs fois et puis peut-être qu'on pourrait parler du Café Babel qui est demain.
Le Café Babel, bien sûr. Le Café Babel
qu'on fait ensemble.
Qui sera en direct sur Divergence FM, c'est à partir de 17h.
C'est ça, exactement. Et donc on aura un super plateau puisque donc il y aura l'équipe des témoins qui sera là. On aura des chroniqueurs. On aura donc ce sera la première de l'année, donc avec un format un petit peu différent, avec des chroniques un petit peu différentes, mais dans laquelle il y aura toujours Nourdine Barra par exemple. Et puis on aura plein d'invités, il y aura un sujet sur Transit, là, le groupe de photographes documentaires, et il y aura aussi donc Mohamed Abouzekri, qui est un oudiste égyptien, qui donnera un concert pour les internationales de la guitare ensuite donc à la Maison pour tous, Léo Lagrange, et qui sera avec nous avant, nous fera des morceaux et on pourra l'interroger justement, puisque donc tout ça parlera de la République, de la démocratie, le sujet des témoins, quoi.
Bien sûr. Et tout ça sera en direct sur Divergence FM, le 93.9, donc demain à partir de 17h. Merci Julien de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau. Tu nous as amené une petite musique, si je me trompe.
Oui, c'est vers la fin du spectacle.
Merci. Divergence FM, le 93.9, l'émission Vendredi Théâtre, et nous venons de changer de plateau. Nous sommes avec La Liberté pour quoi faire ou La Proclamation aux imbéciles. J'ai le plaisir de recevoir Jacques Allaire, bonjour, et Jean-Pierre Barrault, bonjour. Vous avez un micro là, si
merci,
vous
voulez. Bonjour.
Alors, c'est un spectacle qui me fait tout à fait plaisir, puisqu'il est question de Georges Bernanos et de deux textes un peu oubliés de Georges Bernanos que vous avez adaptés pour la scène. C'est des textes, si je ne me trompe pas, qui ont été écrits un peu sur la fin de la vie de Bernanos et qui changent un petit peu l'image qu'on peut avoir de Bernanos.
Absolument. C'est des textes qui ont été écrits en 1945 et 1947, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc au moment où tout le monde se réjouissait de la fin du nazisme, lui dit qu'on va rentrer dans un monde qui va faire beaucoup plus de catastrophes et beaucoup plus de dégâts, qui est clairement le monde du capital, que lui nomme le monde des machines. Voilà, il est en exil au Brésil à ce moment-là.
Il va mourir trois ans plus tard
à Neuilly, sur scène, parce que la France lui demande de revenir. Voilà.
Et en fait, déjà, il y avait quelques années avant, Bernanos s'était engagé contre le fascisme avec un texte sur la guerre d'Espagne qui s'appelait « Les grands cimetières sous la lune ».
Absolument.
Donc le côté politique de Bernanos, ce n'était pas une nouveauté. Puis l'engagement contre le fascisme et pour l'individu, ce n'était pas une chose nouvelle.
Non, puis c'est intimement lié, je pense, à... Je crois qu'il n'y a pas de différence, et ce qui est assez beau dans le texte, entre ces essais politiques qui sont extrêmement poétiques, voilà, parce que c'est pas simplement quelqu'un qui déverse comme ça des vérités politiques, mais c'est un poète qui écrit et qui pense.
Parlez bien devant le micro.
Pardon. Qui écrit et qui pense la politique. Donc c'est assez beau chez un auteur quand tout est lié, la vie, le politique, l'art, voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui arrive à produire ça. Donc c'est vertigineux comme parole.
C'est vrai qu'il y a un verbe aussi, un verbe Bernanos, il y a une façon, un phrasé quand même qui est tout à fait caractéristique.
Absolument, je continue.
Qui l'a vu, qui veut intervenir? Tito?
Moi j'ai rien d'intelligent pour l'instant à dire, mais tu l'as vu toi?
Ah oui, non, moi c'est la deuxième fois que je le vois, je suis une haine conditionnelle. Non, mais c'est un spectacle très fort et qui provoque peut-être des réactions des fois violentes, hein, parce qu'il parle quand même de... Enfin voilà, il parle de l'humanité, il parle de ce qu'on a au fond du ventre, de ce qu'on ne fait pas, et donc du coup... Mais c'est très beau et c'est d'abord très esthétiquement formidable, hein, c'est... De voir ces clowns, enfin, on a des clowns tristes un peu, voilà, il y a différents tableaux. Et c'est, voilà, enfin, moi je trouve que c'est très beau déjà visuellement, et puis après, bien évidemment, hein, le message et tout ce qui est dit provoque une réflexion qui continue bien après le spectacle, quoi.
Une réflexion d'ailleurs qui, des fois, on n'a pas le temps de l'assimiler, tellement la pensée de Bernanos est intense.
C'est pour que les spectateurs reviennent une deuxième fois. il y en a même qui sont rendus à la troisième, et pour quelques-uns, il y en a un spectateur qui est donc à la cinquième représentation.
D'accord.
Et c'est d'autant plus vrai, ce que vous dites, même si je fais une plaisanterie, c'est que il y a une bonne partie de la perception du spectacle qui est devenue, disons, claire au sens d'une compréhension complète, y compris par moi-même, liée aux questions des spectateurs, qui, posant des questions sur les premières rencontres qu'on a eues, puisque c'est un spectacle qui provoque énormément de discussions après, de rencontres, et donc on s'est retrouvé avec Jean-Pierre des fois donc, dans des discussions, et moi-même ne me rendant absolument pas compte et répondant de manière très, très normale, enfin simple, naturelle aux gens, que je disais des choses que même Jean-Pierre ne savait pas, alors qu'il joue le spectacle, et que moi-même je ne m'étais jamais dit à moi-même, quoi. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le spectacle est effectivement fait de telle sorte qu'il n'y a pas la nécessité pour moi de devoir livrer quelque chose dont la, disons pour parler vite comme ça, l'intelligence, la compréhension devrait être absolument une chose dont la maîtrise serait tellement complète qu'on la livrerait aux gens. Je n'apprécie pas tellement d'exercer mon art de cette manière-là. Je préfère qu'il reste un peu en suspens et que ça puisse être une source d'interrogation à la fois pour moi et pour les gens.
D'accord, ouais, mais c'était le cas pour moi en tout cas. Parce que c'est vrai que du coup, quand je suis sorti, quand on voit le spectacle, là, on voit un lien direct entre ce qu'on vit, entre ce dont l'auteur parle. Et après, quand on sort du spectacle, on réfléchit sur le spectacle et on se dit « Mais attends, mais qu'est-ce qu'il a dit déjà ?» Et du coup, ouais. Moi, c'est vrai que j'ai eu du coup ce réflexe. Le lendemain, je suis allé dans une librairie pour acheter le texte.
Mais, qui, malheureusement, d'ailleurs, Soramps m'envoie des petits textos pour me remercier tous les jours. Là. Parce qu'il y a des commandes de Bernanos qui n'ont jamais été aussi importantes, quoi. Et on va demander peut-être un pourcentage un jour. C'est-à-dire que là, effectivement, ça ne s'arrête pas. Les gens se remettent à lire Bernanos, alors qu'avant nous, personne ne le lisait. Voilà, c'est ça, à part les catholiques, en sortant de l'église, qui voulaient relire Mouchette. Mais sinon, personne ne le lisait. Parce que tout le monde pensait que ça n'était absolument pas l'auteur de ses écrits de combat.
Absolument. Et ça,
qui sont complètement oubliés, cachés pratiquement. Quoi, et qui n'apparaissent même pas dans une bibliothèque, et qui ne sont certainement pas étudiés, et qui sont un corpus de textes énorme. C'est énorme, il y en a plus que de ses romans. Et on ne le connaît pas.
Mais il était un écrivain catholique, et pas lié à la Troisième République, par exemple, ou des choses comme ça. Et je crois qu'après sa mort, on a voulu vraiment le récupérer. Les catholiques ont voulu le récupérer. Et donc, y compris même au cinéma, hein, on est allé chercher toujours les textes les plus consensuellement catholiques, les plus spirituellement catholiques, etc., en effaçant le côté politique au maximum, ouais. Pour ne pas montrer que c'était un antifasciste forcené. Il n'était pas vraiment un démocrate, mais pour moi, si. C'est pas la démocratie parlementaire, etc., mais c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse à
la
liberté d'individu. Donc
c'est presque un anarchiste ou royaliste.
Oui, exact.
C'est assez incompréhensible, mais c'est presque quelque chose.
Et en même temps, il détestait les monarchies existantes en Europe à l'époque.
Donc, et à la fois ça, et en même temps, il ne croit pas à la République. Enfin, c'est cette espèce de paradoxe complet. Quoi.
Mais non, c'est une critique du pouvoir et de la liberté aussi. Ça m'a fait penser un peu à Étienne de la Boétie aussi, le discours sur la servitude volontaire.
Oui,
mais
c'est-à-dire que...
Il parle aussi la liberté.
Oui, mais il y a comme une notion qui est fondamentale chez lui. Parce qu'on, même comme ça, en allant vite, en riant, on parle des catholiques ou autres. Mais la question de la foi est centrale chez Bernanos. Alors même si on fait une blague comme ça, parce qu'effectivement, les catholiques ou une pensée catholique française a bien voulu le cadenasser à un endroit... Bien entendu que politiquement, ça évitait de parler de toute la place qu'il occupait, qui est aussi importante que la question de sa foi. Elles ne sont pas dissociables, en fait. C'est la société française, qui est une société habituée à être à la fois pyramidale et à tiroir, de vouloir bien ranger chaque chose à une bonne place pour pouvoir toujours la retrouver, de perdre les clés pour pas pouvoir démarrer la voiture. Donc, comme on veut démarrer la voiture catholique, on oublie que le petit théâtre est antifasciste, qu'il attaque De Gaulle, qu'il attaque les républiques occidentales aujourd'hui, qu'il attaque l'économie libérale d'une manière extrêmement violente, à une époque où personne ne peut imaginer que c'est attaquable, puisqu'on pense que c'est le mouvement même de naissance de la liberté du monde moderne. Donc, il est hors de question d'attaquer ça. Et lui, il casse ça, il fracture ça avec une violence inouïe. Un type à 65 ans, 70 ans, tape dessus à coups de marteau comme ça sur la tête des gens dans des conférences à Genève ou aux Jeunesses chrétiennes. Voilà. Et en même temps, ce qui l'anime et ce qui transcende la totalité de sa pensée, c'est quand même toujours la question de la foi, au sens où la vie intérieure de l'être humain, est le lieu depuis lequel la totalité d'une vie et des vies devrait se déterminer. Et alors ça, c'est une chose compliquée à comprendre aujourd'hui parce que ça a disparu.
Parce que aussi en tant que catholique, il n'était pas dans la... Oui, il était profondément catholique parce qu'il n'y a rien de protestant chez lui. Mais en même temps, c'est pas un catholicisme. J'obéis aux ordres et je suis catholique parce qu'il y a une forme ou des choses comme ça, ce qui est quand même très présent dans l'Église catholique, la forme, l'hiérarchie, etc. Je crois que il est plutôt dans la mouvance. Dieu nous a donné une certaine liberté par rapport à nos actes. Et il faut absolument que les gens aient cette liberté pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être plus proche de Dieu. Je pense ça, même je suis complètement athée, il faut dire entre parenthèses. Mais j'essaie de penser à la place de quelqu'un comme Bernanos. Et je crois qu'il est plutôt là-dedans.
Dans ce cas, c'est Dostoïevski,
la liberté de l'individu vis-à-vis de Dieu, pour se rapprocher de Dieu, il a besoin d'une liberté. Il a pour être heureux, c'est plutôt cette mouvance-là. Qui est complètement
je la trouve très difficile à déterminer parce que si on lit à la fois dans que ce soit dans les romans ou dans les écrits politiques, philosophiques, poétiques, la question et la présence de Dieu est tellement centrale qu'on peut pas faire comme s'il y avait pas ça serait un non-sens absolu. Mais la liberté qu'il a même parlant de cette question, puisque ça l'amène aux rencontres aux jeunesses chrétiennes, il faut lire le texte, hein, c'est stupéfiant ce qu'il leur dit, quoi. Donc c'est quasiment inaudible pour des jeunesses chrétiennes, catholiques. On peut même pas imaginer que le type y croit. On se dit c'est un anarchiste athée violent. C'est un type qu'il faut enfermer, quoi. Et il le dit au nom de la foi, quoi. Son seul discours qu'il leur prononce. Et tout le monde voit un papy dont on voudrait bien dire mais tais-toi, va rentre à l'hôpital, quoi. Je sais pas, prends les cachets, quoi. Voilà. Et donc on a fait une pensée comme ça. Moi par moment ça me fait penser beaucoup à Dostoïevski, qui sont en même temps complètement à des opposés, mais dont la pensée est quand même profondément déchirée. Et je crois que c'est pour ça qu'on arrive à peu près aujourd'hui à s'y reconnaître de manière très simple. C'est très simple, ça n'est pas compliqué de s'y reconnaître, ça n'est pas un chemin de s'y reconnaître, parce que les lignes de fracture aujourd'hui sont tellement intériorisées, puisque quelles que soient vos pensées, vos souffrances, vous les ravalez toute la journée et vous faites croire à tout le monde que vous portez bien en souriant toute la journée et en tapant dans le dos des copains, puisqu'on vit dans un monde d'amis. Donc comme tout le monde dans ce monde d'amis et souffre quand même, la souffrance n'est maintenant une chose qui n'est plus que dedans. Et cette souffrance occupe précisément la place de la foi. Donc je pense que du coup, on peut retrouver quelque chose à cet endroit-là, et que du coup, ces questions pourraient se reposer, et qu'un auteur comme Bernanos pourrait permettre, par exemple, à des hommes politiques de réfléchir un peu.
Oui, ça aurait pu être écrit maintenant. D'ailleurs, on a l'impression que ça a été écrit maintenant.
C'est sans intérêt, de certaine manière. En fait,
c'est triste, hein.
Non. C'est-à-dire qu'on peut lire des phrases de Sénèque ou de Sophocle et se dire merde, c'est une modernité exceptionnelle. Voilà. C'est pas tellement ça le problème. Le problème qu'on a, c'est que c'est nous qui sommes rétrogrades.
Ça va être le mot de la fin. Moi, je voulais juste citer à un moment, c'était Artaud qui le désignait comme son frère en désolante lucidité. Ouais. Il me semblait une belle expression.
Il y en a une autre, je vais vous la dire quand même. Ah. Qui n'est pas dans le spectacle. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.
Ça reflète bien le spectacle. Alors la dernière, c'est ce soir au Théâtre des 13 Vents, c'est à 20h30. Et merci à vous deux de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau de Vendredi Théâtre.
Merci.
Et on va passer un petit air de Marianne Oswald, Le Chant des Canons.
C'était Jim et l'autre c'était John, leur sergent c'était George E. Carson. Au régiment, peu importe d'où l'on vient, s'il en marche, tout va bien. Le canon tonne, nos paraisons. Soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blond ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Le whisky fat et Jimmy avait le ventre bien malade. Alors George il est pris par les bras, tous les trois en avancera ou en crèvera. Oh, 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 oh. La mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. son dernier sommeil d'or. Mais pour la guerre, on trouvera toujours du sang rouge qui coulera. Le canon tonne, non pas raison du gange au Malabar. Chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard. Que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir.
Divergence FM, le 93.9. Vous êtes toujours dans l'émission Vendredi Théâtre. Nous allons aborder le dernier plateau. Ce qu'on vient d'entendre, c'était Marianne Holzwald, le chant des canons. Et nous, le dernier plateau, ben, nous allons parler des bonnes de Jean Genet qui se jouent au Carré Rondelet. Et c'est Robin et Marie qui ont vu le spectacle. Donc tu peux nous présenter nos invités, Marie, Robin ?
Bonjour. Oui, donc j'ai peur d'écorcher vos noms. J'aimerais que vous vous présentiez.
Alors bonjour, moi c'est Élise Pujol et je suis Solange dans les bonnes.
Bonjour, moi c'est Marine Assaillante et je joue Claire.
Et bonjour, je suis Céline Maux, je suis Madame.
Madame qui est bonne avec ses bonnes. Alors Robin, toi tu as vu le spectacle, moi je ne l'ai pas encore vu. Donc
oui,
tu
donc
peux
j'ai
nous
vu
en
le
dire.
Spectacle hier.
C'était la première fois, c'est pas la première fois que tu voyais les bonnes.
C'était la deuxième fois que je voyais
la
les bonnes.
Deuxième fois.
Et du coup c'était vraiment intéressant parce que j'avais déjà une première compréhension du texte qui est aussi assez dense, le texte de Jean Genet, l'histoire, les intrigues, les méli-mélos entre les bonnes, qui est bonne... qui se mélange, qui est qui, Claire, Solange. Et du coup, cette deuxième représentation, eh bien moi, je l'ai trouvée limpide. Vraiment, dans les rapports qu'il y avait entre les personnages, ça saute aux yeux. Quoi. L'expression dit bien la psychologie des personnages. Alors voilà, il ne faut pas s'attendre à aller voir un spectacle spectaculaire. C'est, la mise en scène est sobre, la mise en scène est classique, mais c'est les actrices qui font le
ça
qui
fait
font
ressortir
vivre
le
la pièce. C'est vraiment ce trio infernal qui nous parle de Jean Genet, qui nous parle de ces liaisons, qui nous parle de ce meurtre et qui nous fait douter aussi, qui nous fait douter ce qu'il y a. Vous allez nous en parler, mais donc ce doute entre cette madame qui sait ou qui ne sait pas si ces bonnes vont la tuer.
Oui, c'est juste pour reprendre un peu l'histoire, c'est l'histoire de deux bonnes qui sont deux sœurs et qui fantasment et qui jouent le meurtre de madame.
Oui, c'est ça.
Qui joue et rejoue le meurtre de madame.
C'est ça. Et en fait, à chaque fois que madame est absente, elle s'échange aussi les rôles. C'est-à-dire qu'il y en a une à chaque fois qui fait la bonne, Claire, et l'autre qui fait la madame. Et là, sur la pièce écrite, c'est Claire qui joue la madame et Solange, donc, qui joue la bonne. Et c'est vrai que là, c'est la nuit où vraiment, elles veulent l'assassiner et c'est écrit comme ça, quoi. C'est ce soir et pas un autre. C'est pour ça que... Bon, bah après, il faut venir voir la pièce pour voir comment ça se déroule et comment ça se termine, mais c'est un thriller, en fait, cette pièce.
C'est ça.
Mais c'est l'une des premières pièces de Genet, si je ne me trompe pas.
Oui.
C'était, ça avait été joué la première fois, mise en scène par Jouvet, si je ne me trompe pas.
Et c'est la plus jouée, hein, la pièce de Genet la plus jouée.
Ouais.
Et alors, c'est un texte qui, enfin, c'est une pièce qui est assez minimaliste, mais qui traite d'une multitude de thématiques, quoi. La mort, l'emprisonnement, hein, puisqu'elles sont quand même enfermées dans cette pièce avec une espèce de petite fenêtre qui ressemble à un hublot de prison.
Mmh. Ouais, c'est un huis clos, hein.
Ouais. Et ça traite aussi de la domination.
Oui, domination, pouvoir.
Et à cette époque, des classes sociales, en fait, hein, aussi du rapport entre les gens de maison ou les petites professions, elle les cite à un moment, et les gens plus riches qui n'ont pas conscience du mal qu'ils font aussi, une considération assez peu, vraiment peu de considération, ouais, pour
on n'est pas égaux, quoi. On n'est pas égaux. Il y a...
Mais c'est basé d'ailleurs sur un fait divers.
Absolument.
Hein, c'est ça, voilà. Des sœurs Papin. Et c'était Cocteau qui avait indiqué à Genest ce fait divers qui avait eu lieu dans les années 33,
ouais, en 33.
Cocteau avait d'ailleurs écrit une chanson là-dessus qui s'appelait Anna la Bonne, et en 34 déjà. Et c'est lui qui avait fait connaître ce texte, ce fait divers à Genest.
D'accord.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à se lancer dans cette aventure des bonnes? C'est vrai que c'est une pièce qui est très jouée. Donc, moi, j'ai vu je ne sais combien de versions. Il y a des versions masculines, il y a des versions féminines. J'ai même vu une version travestie, j'ai vu une version cuir, j'ai vu une version. Il y a plein de. Et à chaque fois, on découvre d'autres choses dans le texte qu'on n'avait pas vues. Ça, c'est un texte qui permet ça, c'est-à-dire de redécouvrir. Je suis sûr que quand je vais voir votre pièce, je vais voir des choses que je n'avais pas encore vues, alors que je l'ai déjà vue monter une vingtaine de fois.
Oui, mais c'est vrai que c'est une pièce à la lecture qui est toujours. Très surprenante parce que moi je sais que je la lis plusieurs fois, c'est l'une des pièces que j'ai lues là en la travaillant en fait, et à chaque fois on découvre des choses, ouais. C'est hyper dense.
Et il y a aussi le texte de Genest, Comment je vois les bonnes.
On l'a lu.
Il n'est pas évident.
et puis après, venez voir quoi.
Oui, la mise en scène se détache. Du désir de Genest qui était, il avait des idées très précises, mais la mise en scène s'en détache et c'est pas un mal d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette pièce, c'est la thématique de la domination et dans toute son ambivalence et dans toute son ambiguïté que vous jouez, les sœurs, les bonnes, puisque tantôt l'une est dominée, tantôt l'autre est dominante. Comment ça se passe alors, de passer de l'un à l'autre comme ça? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que Claire représenterait... plutôt la raison et Solange la passion, ou inversement? Comment vous avez vécu ces personnages?
Je sais pas, Claire, si tu veux prendre la parole.
Moi, je sais pas, mon personnage le voit comme toutes les deux, elles ont les mêmes envies, on n'est pas pareil, mais elle est peut-être moins extrême, Claire. Moi je le ressens comme j'ai des moments très forts et très violents, et d'autres moments où très enfantin, plus que Solange en tout cas, parce que c'est ma grande sœur. Et moi, je me vois comme ça, un peu bipolaire, en faisant des moments où elle est très femme, quand elle refait Madame, tout ça, et très violente aussi. Et en même temps, elle a besoin de protection et est très faible d'un coup quand Solange me ramène à ma réalité, qu'on est des bonnes, tout ça. D'un coup, un besoin d'être coucouné.
Bah, recadré, quoi.
Ouais.
Puis finalement aussi, on voit la thématique un peu de l'esclave et du maître, mais ce maître ne serait pas maître sans cet esclave. Et c'est grâce à cette domination réciproque de l'un et de l'autre que les deux peuvent exister. Et ça, vous le mettez très bien en scène. Ça, on voit que cette dame, en fait, elle est très seule. Elle est très seule et elle va se confier à ses bonnes, et elle va s'appuyer sur elle pour exister. Et c'est pour ça qu'en cela, on voit le pouvoir que les bonnes ont sur madame.
Oui, c'est très bien de relever ça, parce qu'effectivement, elle a, je pense, autant besoin de nous qu'on a besoin d'elle. Et il y a vraiment un trio qui se fait, qu'on a du mal à se détacher l'une de l'autre finalement, parce que elle, sans nous, c'est plus madame, et nous, on n'est plus des bonnes.
C'est vrai que c'est aussi un texte politique, les bonnes de Genest.
Ouais.
Et c'est ce qui a fait scandale à la création quand ça a été joué, ces bonnes qui fantasment sur le meurtre de leur maîtresse. C'était assez incompréhensible. De toute façon, les textes de Genest ont toujours été mal perçus à leur sortie. C'est pas le texte qui a fait le plus de scandale, mais
non. C'est vrai qu'on aurait envie d'avoir été dans la salle dans les années 30 et de voir les réactions de ces gens qui allaient au théâtre, qui étaient souvent quand même des gens plus riches justement, quoi, qui faisaient partie de... de voir comment ils avaient pu recevoir ça.
Mais je sais que Genest, il était furieux de la mise en scène de Jouvet. Parce que Jouvet, il avait fait une mise en scène très bourgeoise et qui marchait pas du tout avec le texte, parce que le texte était déjà ailleurs. C'était un motif de désaccord. C'est pour ça qu'il avait écrit Comment jouer les bonnes, qui est un texte provocateur à l'intention de Jouvet. Marie, toi, c'était la première fois que tu voyais les bonnes?
Oui, c'était la première fois, oui, absolument. Et puis j'ai découvert du coup par la suite que Genet a été emprisonné plusieurs fois et
c'est vrai que ça
se ressent très fortement quoi. D'abord parce que ces bonnes elles sont en prison, enfin toutes les trois en fait vivent dans une prison qui est mise en scène aussi puisque ça se passe dans une seule pièce. Et on ressent vraiment très fortement cette thématique de l'emprisonnement quoi.
Bah, tous les premiers textes de Genet ont été écrits en prison. Hein, et la première pièce de Genet, ça se passe dans une prison, c'est haute surveillance.
Et en cela, finalement, ce théâtre du Carré Rondelet se prête très bien à cette pièce.
Oui.
Qu'on n'avait pas du tout la même impression, par exemple, 13 vents, on l'est passé l'année dernière, sur une gigantesque scène. Ici, dans cette petite scène, on voit vraiment cet espace qui est réduit. Et on comprend pourquoi cette folie qui mûrit, parce qu'on voit cette petite espace, et même elles sont toutes les deux en train de s'entrechoquer. Elles n'ont pas la place de s'épanouir, de vivre. Alors à trois, ça se voit de suite. Quoi.
C'est très bien aussi de faire remarquer ça, parce qu'effectivement, pour moi, c'est une pièce qui peut se jouer que dans des petites salles, et ça aide vraiment
pour le côté intime.
Voilà, pour le côté intime, et puis se sentir oppressé vraiment, parce qu'on est oppressé. Donc
voilà, ouais. Moi je vois que l'heure tourne. On rappelle que c'est donc au Carré Rondelet. C'est jusqu'à quand?
Jusqu'à dimanche. On joue donc ce soir et demain soir à 20h30 et dimanche à 18h. Voilà.
Voilà, donc si vous ne connaissez pas ce texte, allez-y, courez-y.
C'est une merveille de poésie, de toute façon, Genet. Eh bien, Vendredi Théâtre, la première de la saison, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur l'actualité théâtrale de Montpellier. Et je rappelle que nous voyons les spectacles dont nous parlons. Voilà. Vendredi Théâtre, à la semaine prochaine. Très bonne semaine théâtrale à tous. Et on va se quitter avec une musique, un chant religieux arménien.